nuit de France Culture. Philippe Garbi, Christine Goémé, Alban Penaranda, Hassan Mbéchour, Virginie Mourté, nous sommes ensemble jusqu'à 7h du matin. Bonsoir. Alors ce 24 août 2016, on a célébré ici et là le centenaire de la naissance de Léo Ferré. Pas question dans les nuits de France Culture de ne pas s'associer à cet anniversaire. D'autant qu'existe dans les trésors de l'Institut National de l'Audiovisuel tant et tant d'archives ayant Léo Ferré pour invité, bien entendu, et aussi pour producteur comme homme de radio. Alors, poète, lyrico-anarchiste, on dit de lui l'un des invités de la longue, très longue et très belle émission que vous allez pouvoir entendre cette nuit, Léo Ferré avec le temps, signé Louis-Jean Calvet et Marc Legras, une émission réalisée par Claude Guerre, diffusée pour la première fois sur France Culture le 1er janvier 1988. Alors, on aurait pu organiser nous-mêmes, l'équipe des nuits, toute une programmation composée des émissions dans lesquelles Léo Ferré était donc interviewé, ou d'émissions que Léo Ferré présentait lui-même sur Paris Inter, à propos de la musique classique. Ça, c'était au tout début des années 50. On aurait pu aussi choisir de faire entendre, alors intégralement, une émission, mais dont on va entendre simplement le générique.
La radiodiffusion française présente Jean Gabin dans un récit radiophonique de Madeleine Rabraud et de Léo Ferré de Sac et de Corde pour récitant, voix, chœur et orchestre avec Leïla Bensedira de l'Opéra Comique, Marek Sliven de l'Opéra Comique, Claire Leclerc, Suzanne Girard, Léo Noël et les frères Jacques. Chœur Raymond Saint-Paul, direction Eugène Bousquet. Musique originale de Léo Ferré. Orchestre de la radiodiffusion française et chœur sous la direction de l'auteur. Réalisation Yves Darrier.
Et oui, Léo Ferré en compositeur, Jean Gabin en récitant. De Sac et de Corde, donc, ça avait été diffusé pour la première fois sur la chaîne parisienne le 5 février 1951. Alors, mais ne soyez pas frustrés, auditeurs, amateurs de Léo Ferré, l'émission précitée Léo Ferré avec le temps vous contentera. Vous allez l'entendre, mais dans une demi-heure, disons, toute cette longue et belle émission. Alors, en attente de cette émission, nous sommes en compagnie de Pascal Boniface qui a publié ce printemps aux éditions La Découverte, un Léo Ferré toujours vivant, et en compagnie aussi de Mathieu Ferré. Alors bonsoir aux deux, bonsoir Pascal Boniface.
Bonsoir.
Vous êtes dans le studio. Bonsoir Mathieu Ferré, vous êtes vous par téléphone?
Oui, bonsoir, je suis par téléphone.
Voilà. Et où êtes-vous?
Ah, je suis en Toscane.
Donc dans le
lieu... En Italie.
Oui, en Italie, là où Léo Ferré finalement a passé
a vécu depuis 1969.
Et vous-même, vous êtes le petit garçon qu'on voit sur les couvertures de disques, hein, c'est bien ça?
Oui, tout à fait, oui.
Vous aviez quel âge dans ce...
Ah ben, il doit y en avoir plusieurs, mais il y a la première, c'est la pochette L'Espoir, je dois avoir 3 ans. Et puis après, il y en a une autre, on est pas sérieux quand on a 17 ans, je dois avoir 15 ans.
Et votre père vous disait, ne bouge pas, on te prend en photo, c'est pour un disque
À dire la vérité, je me souviens plus très bien. Quand j'avais 3 ans, je me souviens pas, bien sûr. Et puis après, quand j'étais un peu plus grand, c'était un ami de la famille qui s'appelait Hubert Grootekla, qui est un photographe assez célèbre d'ailleurs, et qui était très ami avec mon père, et qui venait tous les ans ici chez nous en Toscane avec sa famille, et qui prenait sans arrêt des photos. Donc voilà, c'était normal, quoi. Je me suis jamais mis en pause pour faire prendre des photos, non, jamais. C'est pas mon genre.
Non, mais ces disques, par exemple, quand vous les écoutez, vous les réécoutez de temps à autre, et donc ça doit être étonnant quand même d'ouvrir un disque comme ça sur la pochette duquel on est. Enfin, c'est plus une pochette, si c'est une pochette encore pour les compact disques. Enfin, on
se trouve. Oui, non, c'est pour moi, c'est j'ai toujours vécu ça. Donc, j'ai toujours vu, j'ai grandi avec cette image et avec cette chose. Donc, non, pour moi, ça ne me fait pas particulièrement un effet spécifique, je veux dire.
Bon. Alors Pascal Boniface, lui, a écrit dans son avant-propos « Depuis que je prépare ce livre, donc Léo Ferré toujours vivant, il est peu de jours où je ne suis pas en contact avec lui, Ferré, par l'écoute ou par la pensée. » Alors j'imagine, Mathieu Ferré, que vous-même, vous pouvez tenir les mêmes propos, amour filial en plus.
Oui, bien sûr. Mon père biologique, comme tous les pères de tout le monde, lui, il n'est plus là, malheureusement, bien sûr. Ce qui reste, c'est son œuvre et elle est pérennisée par ce qu'il a écrit et par ses enregistrements. Donc, c'est l'artiste qui reste aujourd'hui. Donc, c'est bien séparé pour moi. Mon père n'est plus là, mais l'artiste est bien présent au quotidien et il le sera pendant longtemps pour de nombreuses générations encore, je pense.
Et puis alors, donc ça c'est le jour anniversaire des 100 ans, mais j'imagine que Mathieu Ferré, vous avez dû lire des dizaines et des dizaines de livres, peut-être pas simplement le livre de Pascal Boniface sur Léo Ferré. Il y en a que vous vous êtes interdit de lire ou parce que vous vous êtes dit...
Non, je suis toujours assez curieux de lire ce que les gens écrivent sur Léo. Bien sûr, moi j'ai toujours plus une attirance vers ce que lui a écrit. Souvent, les livres qui sont écrits sur Léo, je suis un peu déçu parce que il y a souvent des erreurs, des inexactitudes qui après véhiculent. Voilà, il suffit qu'un journaliste ou que quelqu'un écrive dans un livre une chose et puis après ça devient gravé dans la pierre, quoi. Et parfois, il y a des erreurs et des choses qui sont pas tout à fait précises et véridiques. Le problème, c'est que le souvenir des gens qui l'ont connu, hein, qui ont écrit des livres, ils sont sûrement en bonne foi. Hein, je veux dire, ils font pas ça méchamment, mais pour eux, c'est des fois le souvenir vrai qu'ils écrivent dans leurs livres. Et parfois, c'est pas tout à fait ça. Je peux raconter, si vous voulez, une anecdote pour bien comprendre. Quand Maurice Faux, qui était un assistant de Léo, a écrit son livre, à un moment, il raconte que quand Léo avait un chimpanzé qui a été, on va dire, abattu en 1968, et donc il raconte dans son livre que Léo arrive à son domicile, et puis il y a le chimpanzé qui est mort, et donc il prend son alliance qu'il avait à la main, et il la met au chimpanzé, il fait enterrer le chimpanzé. Or, c'est pas vrai, ça, parce que l'alliance de Léo de cette époque-là, c'est ma grand-mère qui l'a. Donc, mais c'est vrai que c'est poétique comme histoire, c'est romantique, c'est beau. Mais lui, il était persuadé que c'était la vérité. Et en fait, c'est pas comme ça. Donc, des fois, il y a des choses qui sont écrites et racontées qui sont pas tout à fait exactes.
Bon, alors, Pépé n'a pas été enterré avec ce bijou, mais peu importe. De toute façon, en effet, il y a la chanson, c'est ce qui nous intéresse, voilà. Nous, les amateurs de Léo Ferré. En tout cas, le livre de Pascal Boniface, je pense qu'il ne vous déplaît pas. Vous n'êtes pas face à face, puisque Mathieu Ferré, vous êtes en Toscane et Pascal Boniface est dans ce studio. Mais je crois que vous êtes amis, que vous êtes, vous avez lu son livre avec plaisir.
Oui, bien sûr, oui. Et puis Pascal vient souvent en Toscane nous voir et ça nous fait toujours très plaisir.
Alors, il dit, Pascal Boniface, dans son introduction, qu'il a mis 45 ans pour écrire. Alors, il n'a pas écrit pendant 45 ans ce livre. Il a plutôt attendu 45 ans pour écrire ce Léo Ferré, toujours vivant. Vous croyez, vous, que ce directeur de l'IRIS, Institut de Relations Internationales et Stratégiques, dit la vérité, là que...
Oui, bien sûr. Je pense d'ailleurs même que peut-être Pascal aurait peut-être parfois voulu faire un peu plus entrer dans le vif et dans la chair de certains arguments, mais je pense que bon, c'est bien comme il l'a fait, voilà, donc.
Bon, Alors, justement, Pascal Boniface, vous, vous écrivez un livre, vous êtes ami, on l'a compris, de Mathieu Ferré, mais du coup, ça peut gêner quand même. On se dit, je ne vais pas pouvoir tout raconter, sauf que peut-être ce que vous voulez raconter, et ce que vous faites, et ce qui est réussi dans ce livre, c'est une admiration pour un artiste que vous avez photographié vous-même, c'est la couverture.
Tout à fait.
La couverture, et puis la quatrième de couverture, elle est de vous la quatrième de couverture ?
Également, c'était le même jour, le 30 mai 73, à la fête du PSU à Colombes, où j'étais photographe amateur et j'avais fait une série de photos.
Ces deux-là sont très belles, voilà. Pour un amateur.
J'en ai toute une série encore, qui ont survécu, que j'ai retrouvé, et qui ont survécu à la critique rongeuse des rats.
Alors, vous avez commencé à écrire pour qui, finalement ? Donc, pas pour le fils, pas pour la famille ?
Non, pour moi. Pour moi, et peut-être aussi pour les nouvelles générations qui connaissent insuffisamment Léo Ferré ou qui ne retiennent de lui, dans le meilleur des cas, qu'une ou deux chansons. Et je pensais que, 23 ans après sa disparition, il n'était pas inutile de le resituer comme artiste dans son époque et de montrer ô combien il était visionnaire et ô combien il était en avance sur son temps. Et puis, pour le dire quand même très franchement, je l'ai fait avant tout pour moi, parce que c'était une sorte de défi personnel que je me posais. Il y a déjà effectivement beaucoup de livres qui ont été écrits sur Léo Ferré, donc il est dur de trouver sa place. Personnellement, je ne l'ai pas connu, comme d'autres qui ont écrit sur lui.
Vous l'avez approché, et puis, puisque vous l'avez photographié.
Oui, mais bon. Ah. Et puis, disons que ce n'est pas ma spécialité de faire ce type de livre, donc je suis un peu sorti de ma zone de confort. Et comme j'ai effectivement un grand respect, pour ne pas dire une grande admiration pour Léo Ferré, c'était pour moi un défi de ne pas louper le livre et voilà qu'on puisse le lire sans crier au scandale et que peut-être, ce qui s'est déjà fait un petit peu, que des gens qui ne connaissaient pas Léo Ferré, bah, ça leur donne envie d'aller un peu au plus profond de son œuvre et ne pas se contenter de chansons certes emblématiques, mais qui peuvent parfois être l'arbre qui cache l'immense forêt de son répertoire.
Oui. Et c'est vrai que c'est un des grands talents de ce livre, c'est de nous pousser finalement à aller rechercher des chansons qui, il y en a quoi, il y en a une trentaine qu'on pourrait citer quand on n'est pas le fan intégral, voilà. Et puis il y en a 100 autres, 200 autres qui sont peut-être d'inégale qualité, mais qui racontent également le personnage, son évolution dans le
oui, effectivement. Et puis je dirais que Ferré, c'est un peu comme Picasso, il y a plusieurs époques. Et donc il est passé par plusieurs époques de créativité, de création, plusieurs époques également personnelles. Donc son œuvre est également le reflet de sa vie, de ses envies également. Et donc c'est tout ça effectivement qu'il faut faire voir. Alors bon, peut-être que tout n'est pas, il a dû écrire entre 400 et 500 chansons. Toutes ne sont peut-être pas éternelles, mais il y en a quand même de très très nombreuses qui chaque fois disent quelque chose, soit sur l'amour, soit sur la poésie, soit sur la politique, soit sur la société.
L'anarchie,
bien sûr. L'anarchie et la révolte aussi, une révolte quand même qui l'a habité tout au long de sa vie, qui quelque part lui a joué des tours, parce que il n'était pas toujours en odeur de sainteté. Il avait écrit dès 56, le poète d'aujourd'hui, d'être d'une caste, d'un parti ou de tout Paris. Il n'était aucun de ces trois-là, et ce qui fait qu'il est parfois un peu plus dur de ranimer son souvenir auprès de certaines autorités que d'autres artistes plus consensuels. Il n'y a pas un lobby Léo Ferré. Il y a des gens qui l'admirent profondément, mais qui, par définition, ne sont pas organisés en groupe de pression pour faire valoir les droits de Léo Ferré à la postérité. Mais vous rencontrez au hasard, et ça m'a souvent frappé, moi c'est vrai que j'ai un peu pour défaut de parler souvent de Léo Ferré au cours d'une soirée, et l'énorme surprise, c'est de tomber sur des gens qui, comme moi, ne sont pas dans le domaine de la musique, qui ne sont pas dans le domaine artistique, mais qui, dans leur jardin secret personnel, ont en eux l'œuvre de Léo Ferré ou une grande partie de son œuvre, et sont capables de faire des morceaux entiers, de réciter d'un trait des morceaux entiers de plusieurs de ses textes.
Mais de même qu'il n'y a peut-être pas donc une amicale des Léo Ferré, comment dirait-on, amicale
Léo Ferré. Les Ferriens, ou je sais pas, c'est autant de ne pas essayer de trouver le mot, effectivement.
Oui. Lui-même, anarchiste, n'était pas un militant, c'est-à-dire qu'il n'avait pas envie d'entrer dans un groupe d'anarchistes.
Ah, il était militant. Il était militant parce qu'il a donné des tas de concerts. faire gratuitement, aussi bien pour le monde libertaire, la fédération anarchiste, que pour des causes ouvrières et autres. Donc en ce sens-là, il payait de sa personne. Ces tours de chant, j'allais dire ces meetings, mais vous voyez d'où vient le lapsus. Ces tours de chant, ces tournées après 68 étaient autant finalement de meetings politiques dans lesquels on agitait le drapeau noir, mais
le
en même
Bobineau
temps,
69,
Bobineau ou le Figaro qui titre que la clique de Nanterre est devenue la claque de Bobineau pour le concert mythique de 69. Mais effectivement, il ne voulait pas être dans une structure organisée. Il était anarchiste, individualiste. Et puis surtout, et beaucoup l'ont regretté, à la fin, il ne voulait plus chanter les anarchistes parce que, comme il a dit dans un texte, le drapeau noir, c'est encore un drapeau. Et il ne voulait pas que cette chanson devienne un hymne parce qu'il était contre les hymnes, finalement. Donc, il a milité de façon individuelle et avec des amis qu'il n'a pas laissé tomber. Mais il n'était pas, disons, militant structuré. Et bien sûr, il n'a jamais ôté.
Oui, mais il ne chantait plus les anarchistes, ça je l'ai appris enfin dans votre livre, Pascal Boniface, mais il l'a chanté quand même une dernière fois en public.
Oui, à la Fête de l'Humanité.
Voilà, en grand provocateur.
Voilà, à la Fête de l'Humanité où il accompagnait Bernard Lavillier. Alors il y avait bien sûr avec le Parti communiste des rapports ambivalents, parce qu'à la fois il respectait les communistes comme individus, il s'est évidemment très bien entendu avec Louis Aragon, mais il a longtemps combattu et le régime cubain et le régime soviétique, quitte à se fâcher, d'ailleurs non pas quand il a combattu le régime soviétique, il a toujours refusé d'aller chanter à Moscou, mais quand il disait du mal de Fidel Castro, il se mettait à dos une partie de la gauche
pour qui c'était effectivement
une référence. Mais je crois qu'il avait du respect. Il a adhéré une journée au Parti communiste, comme il n'a pas eu la parole, il est parti immédiatement. Mais disons que je crois qu'il avait un respect pour les militants communistes et de façon très agréable, le village des livres à la Fête de l'Humanité cette année sera baptisé Léo Ferré pour le centenaire.
Mathieu Ferré, vous étiez petit, mais est-ce que vous avez l'impression que les rapports avec les hommes et femmes politiques en Italie étaient différents de ce qu'ils avaient pu être en France ? Est-ce que vous savez...
Les rapports de Léo ?
Oui.
Ah ben, il n'y avait aucun rapport avec les hommes politiques en Italie, Léo. Ni même en France, d'ailleurs, je pense qu'il n'a pas eu de rapport personnel de connaissance, vous voulez dire ?
Oui, ou idéologique, peut-être.
Ou son avis à lui...
Sur le PCI, par rapport au PCF, sur...
Moi, je me souviens qu'il n'était pas content quand il y a Berlusconi qui était là, mais c'était surtout ça qui le mettait en colère. Après, le PC en Italie était sûrement très présent et très fort à une certaine époque, même si ils n'ont jamais gouverné, quoi. Donc, de toute façon, comme il disait, la gauche, quand elle n'a pas pu gouverner pendant très nombreuses années, il disait, c'est une salle d'attente, et le jour où ils pourront gouverner, ils feront exactement comme les autres, c'est-à-dire rien, et ce qui d'ailleurs est après à arriver, de toute façon. Les hommes politiques n'ont de toute façon aucun pouvoir de quoi que ce soit, donc je vois pas trop. Oui, c'est l'image du politicien qui le dérangeait, que ce soit de gauche, de droite, c'est tous dans le même panier qui les mettait, je pense.
Ah, moi j'ai été frappé en lisant le livre de Pascal Boniface donc par le fait que souvent il parlait de ses relations avec. Famille, j'imagine, enfin, avec une autorité. C'est-à-dire que votre génération, Pascal Boniface, voyait Léo Ferré comme une personne plus âgée que ses propres parents, mais finalement qui disait ce que la jeunesse post-68arde pensait.
On était complètement en phase. Alors, il y a effectivement des gens qui ont dit qu'un texte comme Il n'y a plus rien était un texte nihiliste. Comme souvent des gens qui. Et que c'était dangereux pour la jeunesse, mais c'est des gens qui n'étaient pas jeunes à l'époque, et donc ils pouvaient pas se mettre à notre place. Moi et mes copains, on trouvait ça formidable et pas du tout nihiliste, mais au contraire très mobilisateur. Quand Léo Ferré dit « nous aurons tout dans 10 000 ans », là, l'échéance est un peu lointaine, mais c'est le but qui compte. Et donc, en aucun cas, on a vu ce texte comme nihilisme, mais c'était une sorte de coup de pied au cul donné aux générations antérieures, qui obscurait un petit peu la voie, et un appel à la liberté individuelle et collective, un appel aussi, il faut quand même se rappeler le contexte de l'époque, les questions de sexualité, d'homosexualité n'étaient pas du tout perçues comme de la même façon que maintenant. Et donc, Léo Ferré, aussi bien pour la liberté sexuelle, lorsqu'il fait la préface des poèmes de Verlaine et qu'il dit attention, ce qu'on vous dit pas dans la gare des Michards, c'est qu'ils étaient homosexuels et que c'était effectivement la part cachée dans les lycées, etc.
Ils étaient amis.
Oui, voilà, c'était amis, effectivement. Donc, en fait, non seulement Léo Ferré reste encore, en termes d'érotisme, un sommet aujourd'hui, mais pour l'époque, il gravissait encore plus. Et donc, il y avait à la fois, c'est vrai que le slogan, à la fois pour reprendre deux de ses textes, « Faites l'amour et ni Dieu ni maître »,« Faites l'amour et ni Dieu ni maître » étaient des slogans très mobilisateurs, dont nous étions tout à fait prêts à appliquer, à les mettre en pratique, séance tenante.
Alors, on comprend, Pascal Boniface, que l'importance de l'œuvre de Léo Ferré quand elle arrive par les transistors, quand les chansons ne sont pas interdites. Mais en tout cas, bon, dans les années 60, fin des années 60, 70, n'en parlons pas, tout passe à la radio et quelles que soient les radios. Mais pour vous, Mathieu Ferré, finalement, ça n'a pas du tout été ce même cap, et puisque d'abord vous êtes né après, et puis vous n'aviez pas tellement à lutter contre un père, j'imagine, ou alors je me trompe complètement.
Non, moi j'ai jamais eu de rapport conflictuel avec Léo, bien sûr, non. Au contraire, j'ai toujours eu du mal à comprendre pourquoi il y avait les fils souvent un peu en conflit avec les pères. Moi, ça n'a jamais été ma situation. C'est probablement parce que c'était quelqu'un qui était très solitaire, de toute façon, même dans sa vie privée. Et puis, comme il nous avait bien expliqué à mes sœurs et à moi, il nous avait bien dit, moi, je rentre pas dans votre chambre, dans vos affaires, dans vos trucs, je viens pas vous déranger, mais vous venez pas me déranger dans mon travail, dans mes choses, dans mon bureau et dans mes affaires à moi, quoi. Donc il y avait ce mutuel accord, on va dire, respectueux entre nous, et donc il n'y a pas eu de problème. Et puis c'est vrai que mon père, quand je suis né, il avait quand même un âge avancé, donc 54 ans il avait, donc c'est sûr que ça change aussi les rapports, probablement, entre un père d'un âge plus mûr que avec un père qui peut avoir à un moment un rapport conflictuel. Donc non, ce problème-là.
Mais est-ce que, alors, pour passer, revenir à la chanson, Mathieu Ferré, vous vous souvenez des premiers titres et entendus de Léo Ferré, et non pas de votre père, en quelque sorte, si vous pouvez faire la différence, mais je ne sais pas, là, sur une radio ou simplement même un disque, mais en l'absence physique de votre père, et vous, un jour, et à quel âge vous avez posé...
Ouais, je me souviens une fois, quand j'étais jeune adolescent, on va dire autour de 13, 14 ans, comme ça, j'ai pris tous les disques, je me suis mis sur des cassettes et je les écoutais. Moi, il était là, je lui avais emprunté à lui, donc il l'avait bien vu, il le savait bien. Pour écouter un peu moi-même ce qu'il racontait, ce qu'il faisait. Après, c'est vrai que quand on a 14 ans, qu'on a vécu, qu'on vit en Italie, on est culturellement dans un bouillon différent que ce qu'il y avait en France. C'est vrai que moi, étant en Italie, c'était autre chose que j'entendais dans des radios ou dans les télévisions. Léo, en Italie, a jamais été très, très connu, on va dire, bien sûr, du fait qu'il chantait en français, donc c'est comme ça. Et donc, voilà, j'ai écouté toutes ces cassettes-là, et puis j'en suis jamais revenu, quoi. À partir de là, après, j'ai toujours creusé, et cherché, et essayé de comprendre, et me passionner pour son travail. De vous dire après la première, ou tout ça, je sais pas vous dire, parce que c'est peu importe la première chanson que j'aurais pu entendre. Mais non, si, la première chose que je me souviens, c'est quand j'avais 4 ou 5 ans, que Léo travaillait dans son bureau, il travaillait sur la chanson du mal-aimé, donc il réécoutait les playbacks, la musique, donc la partie que instrumentale. Et donc moi, je me mettais ça au casque et j'écoutais donc la partie que musicale de la chanson du mal-aimé, donc qui est de Guillaume Apollinaire, qui l'a mis en musique au début des années 50. Et ça me passionnait totalement. Et ça, je m'en souviens bien, ça. J'avais 4 ou 5 ans, effectivement. Voilà, parce que j'ai toujours eu une forte admiration pour tout son travail musical en premier. Parce que c'est vrai que c'est plus facile comme abord quand on est jeune. C'est vrai que le vocabulaire et la façon d'écrire de Léo sont assez élaborés, on va dire. Avec un vocabulaire très recherché, gens. Donc, de toute façon, il y a des personnes qui sont curieuses dans la vie et qui vont chercher, et puis il y en a d'autres qui s'intéressent à rien. Donc, Léo ne les touchera jamais, ces gens-là. Par contre, quand vous avez 16, 17 ans ou 18 ans, que vous vous intéressez, par exemple, à la poésie, à Rimbaud et tout ça, eh bien là, vous êtes quelqu'un qui peut être effectivement intéressé par ce que Léo a écrit et a fait, et vous pouvez aller effectivement creuser ou découvrir, comme disait Pascal, cette forêt qui est effectivement encore assez mal connue et explorée. Chose qui, en définitive, ne me dérange pas. Je trouve que c'est très bien aussi qu'il y ait une petite part de mystère et que, en définitive, Léo soit encore toujours aujourd'hui un peu, entre guillemets, maudit, et ça le rend plus intéressant, je trouve. Sinon, ça devient, après, vous avez tous ces grands classiques de la chanson, je ne vais pas me mettre à faire la liste, mais il y a une espèce de banalisation qui s'opère et qui est assez décevante dans ce qu'on voit aujourd'hui dans le paysage télévision et radio en France. De commémoration pour les années quand la personne est morte, pas pour quand elle est née, c'est tout à fait un peu plus sordide, je trouve. Donc là, ça donne un peu l'espoir, un peu le positif, quand on dit, voilà, tu vois, c'est la naissance qu'on essaie de célébrer. Et de nombreux directeurs de chaînes de télévision ont dit que Léo, c'était trop compliqué, c'était trop... c'était pas assez consensuel, ou c'était pas assez populaire... c'était trop compliqué, c'était un peu trop difficile, quoi. Donc, il n'y a pas grand-chose qui se fera à la télévision. Et comme je vous dis, tant mieux à la fin, parce que quand après vous tombez dessus, eh bien, c'est plus appétissant, en définitive.
Vous n'avez pas envie d'entendre fredonner les anarchistes par des gens qu'a priori vous n'aimeriez pas?
Non, absolument pas. Ils peuvent fredonner autre chose, mais... S'il ne fredonne pas les anarchistes, tant mieux presque, je veux dire. J'ai toujours prétendu que Léo, ça se mérite, quelque part. Donc, si vous ne le méritez pas, tant pis pour vous. Nous, on y est dedans et ça nous fait voir la vie et le monde d'une autre façon. Et je parle nous parce que je connais plusieurs personnes qui pensent comme moi. Et ça nous aide dans notre quotidien. Après, voilà.
Alors, il y a eu beaucoup de livres sur Léo Ferré. Et puis, ce livre donc, de Pascal Boniface, publié au printemps dernier, Léo Ferré, toujours vivant, édition La Découverte. C'est un livre d'un admirateur, mais c'est un livre d'un admirateur qui sait faire partager son admiration. C'est-à-dire qu'on ne dit pas à chaque ligne, Léo Ferré est un homme extraordinaire.
Assez peu d'intérêt, effectivement.
Oui, ça aurait assez peu d'intérêt. Et le grand intérêt, Pascal Boniface, c'est en effet d'attirer l'attention sur des chansons oubliées. Enfin, encore, pour les oublier, faut-il ne pas aller n'avoir la curiosité d'aller les écouter, mais en tout cas, peu connues. Et puis aussi, comme c'est écrit, comme on voit le texte, eh bien, on comprend mieux. Et ça donne envie d'aller écouter les chansons. Vous avez des idées en tête, comme ça, de certaines chansons?
Oui, Chanson pour elle, qui est une formidable chanson d'amour, qui n'est pas très connue, nous deux. Les temps difficiles qu'il faut resituer dans le contexte de l'époque, par rapport à la dénonciation de la torture en Algérie. Et là aussi, c'était pas évident. Et donc, effectivement, il y a un tas de trésors cachés ou de trésors aperçus. Et il faut dépasser le triptyque, la mémoire et la mer... cet extra et avec le temps, dont il ne faut pas méconnaître le caractère admirable, mais qui, une fois encore, ne doivent pas empêcher d'aller picorer à droite, à gauche. Et très franchement, la liste serait trop longue à citer, parce que j'ai, non pas 30 ou 40, mais j'ai plus d'une centaine de titres qui, à chaque fois, ont déclenché chez moi des émotions. Richard, pour ne pas l'oublier, L'Oppression, etc. Enfin, la liste est extrêmement longue des chansons de Ferré qui parlent au cœur, soit parce qu'on les comprend, soit même si on ne les comprend pas, comme l'emblématique « La mémoire et la mer ».
Ah oui, ça, alors, pour comprendre. Mais justement, vous attirez l'attention, Pascal Boniface, il y a des allusions qui sont... Alors, je peux avoir chanté du Léo Ferré sans avoir compris, comme plein de gens. Et là, quand même, c'est pas une explication de texte, Pascal Boniface, mais ça y ressemble un petit peu.
C'est quelques clés, mais ce qui est formidable dans « La mémoire et la mer », c'est que même si on ne comprend pas, on est saisi à la première écoute. À la fois parce que c'est une voix aussi, on oublie souvent que Léo Ferré, c'est pas seulement un musicien, un poète, c'était aussi également une voix. Une voix où l'affiche rouge, ou même cet extra, quand d'autres essaient de reprendre cet extra, la comparaison est extrêmement difficile. Et la force qu'il a mis dans l'affiche rouge, par exemple, donne au texte d'Aragon une force pour les nouvelles générations qu'il n'aurait pas à la simple lecture du texte. La musique, bien sûr, mais la voix également.
Mathieu Ferré, vous entendez quand même des gens chanter du Ferré autour de vous sans qu'ils sachent qui vous êtes?
Oh, sans qu'ils sachent qui je suis, c'est assez rare. Si c'est un concert ou un spectacle, parce que souvent, non, ils le savent. Non, mais moi, au début, j'étais un peu, on va dire, obnubilé par les interprètes. Je veux dire, c'était pour moi une sorte de façon pour que Léo continue à être écouté, pérennisé, que ce soit... Parce que c'est quand même le spectacle vivant, c'est quand même très important. Léo, malheureusement, n'est plus là pour faire des concerts, donc... Si vous avez un interprète qui décide de faire quelque chose de Léo et de le chanter sur scène, c'est très bien. Donc j'étais un peu obsédé par ça. Puis aujourd'hui, plus du tout. Les interprètes, c'est très bien si les gens veulent le faire, comme justement pour le porter sur scène et dans un public vivant. Mais je reviens toujours aux enregistrements de Léo, finalement, parce qu'ils y sont et on les a par chance. Et donc, à quoi bon de se... sur les interprètes. Je pense que les interprètes sont... C'est fondamental le rôle des interprètes, mais sur une scène, voilà. Peu importe l'enregistrement, c'est beaucoup plus important à mes yeux, un interprète qui va faire une chanson de Léo dans son spectacle parce qu'il aime bien Léo et il va le porter, que de l'enregistrer. Mais aujourd'hui, on est malheureusement dans un mécanisme, enfin depuis longtemps, hein, mécanisme de l'industrie du disque qui vous fait faire des enregistrements et c'est tout. Notre chose, le spectacle vivant a perdu un peu de priorité pour cette industrie, bien sûr, parce que c'est le disque qu'elle veut vendre, l'industrie, pas le spectacle.
En tout cas, Léo Ferré, c'est devenu un personnage public. Si on commémore le 100e anniversaire de la naissance de quelqu'un, c'est que ce quelqu'un, il appartient un petit peu à tout le monde, à tous ceux qui l'aiment.
Oui, et ça... c'est inéluctable, on peut ni Pascal Boniface, ni moi, ou personne d'autre faire rien contre ça. C'est pas parce que, je veux dire, c'est pas par la qualité de son travail, de ce qu'il a écrit, principalement, que Léo Ferré va rester, pas parce que nous, on est là, on essaye de faire des choses, des livres, ou des spectacles, ou des disques, etc. C'est parce que ce qu'il a écrit, ça touche et ça parle à des gens, et ça... ça continuera. Et il y a de nombreux acteurs de la variété des années 50 ou 40 ou 60 qui ont totalement disparu des mémoires parce que ce qu'ils portaient, c'était un peu inutile, on va dire. Et ça continue. Aujourd'hui, je pense qu'en France, ce qui est produit d'un niveau très faible, sauf peut-être... quelques rarissimes exceptions. Et c'est tout un autre système. Donc après, la pérennisation, elle est là parce que si aujourd'hui on écoute, on lit Baudelaire ou Rimbaud, c'est parce que ils ont écrit quelque chose qui, encore aujourd'hui, touche les gens. Pas parce qu'il y a eu je ne sais quelle association ou personne qui a essayé de faire un travail sur ces gens.
Pascal Boniface rappelle les vacheries, les griffures, les coups de griffes de Léo Ferré contre les yéyés des années 60, parce que ils ont disparu, certes, enfin pas tous d'ailleurs, certains ont disparu des mémoires, mais les chanteurs, ce qu'on appelait les chanteurs à texte des années 50, auraient pu très bien disparaître aussi, Pascal Boniface.
Tout à fait, alors c'est vrai que c'est une époque où sur la même radio on pouvait écouter Sheila puis Charles Aznavour dans la foulée, c'est cette époque qui a disparu, maintenant les radios sont thématiques et s'adressent à des générations particulières, mais c'est vrai que le paradoxe c'est que quand Sheila chantait T'es plus dans le coup papa, c'était un peu balancer aux orties la génération d'avant qui occupait le terrain, sauf que en fait finalement la vengeance de Léo Ferré c'était que après avoir été bousculé par ces jeunes chanteurs qui chantaient dans un anglais qu'ils ne maîtrisaient pas, le rapport direct avec la jeunesse, s'il l'a eu, est de façon beaucoup plus intense, et le lien que Léo Ferré a pu avoir avec la jeunesse, alors certes contestataire, un peu plus contestataire que ceux qui écoutaient les yéyés de l'époque, mais c'était un lien beaucoup plus fort, beaucoup plus fusionnel, qui n'était d'ailleurs pas seulement dans le simple admiration d'une vedette, mais avec une complicité politique et intellectuelle. Et une fois encore, en termes d'érotisme, Léo Ferré bat largement tous les chanteurs yéyés qui évoquaient à peine des tendres baisers dans le cou, ce qui était déjà horrible pour il passait pour iconoclaste en ce cas. Et les textes de Léo Ferré, une chanson comme Joli Môme par exemple, qui n'a bien sûr pas disparu du répertoire, est un sommet quand même en la matière de grivoiserie légère et gaie.
Bon, bah écoutez, on va se quitter en écoutant évidemment du Léo Ferré. Dans l'émission qu'on va entendre après la chanson, là, il y a quelqu'un qui parle d'un Léo Ferré comme un chat, il le compare à un chat qui griffe pour être caressé. C'est-à-dire qu'il faut, pour être l'ami de Léo Ferré, enfin les personnes dont il avait envie lui-même d'être l'ami, eh bien, il fallait d'abord qu'il donne des coups de griffe, qu'il soit un petit peu vache. Vous avez vécu ça, Mathieu Ferré? Enfin, vous l'avez constaté autour de vous?
Non, pas trop, je trouve. Mais si la personne le dit, c'est parce que peut-être elle a pris un coup de griffe. Et je pense que je vois de qui vous parlez, mais oui, mais c'est sûr que quand Léo c'était pas un rancunier, hein, mais si vous lui faisiez quelque chose qui lui déplaisait, à un moment il vous le disait, et puis après il passait à autre chose, quoi. Mais c'était en définitive quelqu'un de très généreux et beaucoup plus gentil de ce qu'on a toujours essayé de le montrer, de le faire passer pour un saligo, un peu agressif, et en définitive c'était. C'est sûr, comme il disait, quand si vous aimez prendre des coups de pied au cul, ben, c'est votre affaire. Lui, il n'aimait pas, et je pense qu'il y a peu de gens qui aiment bien ça. Donc, quand on vous donne un coup de pied au cul, ben, vous réagissez, quoi. Lui, il réagissait à sa façon.
Voilà. Merci, Mathieu Ferré. En tout cas, Léo Ferré, on va l'entendre chanter, et puis après, on va entendre donc la chanson Léo Ferré avec le temps, et on va passer près de 6 heures en sa compagnie. C'est une émission qui avait été diffusée pour la première fois sur France Culture le 1er janvier 1988. Merci Mathieu Ferré.
Merci à vous.
Je rappelle donc le titre du livre de Pascal Boniface publié à La Découverte, Léo Ferré, toujours vivant. Merci Pascal Boniface.
Alors, merci à vous.
On a parlé vous avez parlé de poète, on peut terminer avec un petit Rimbaud quand même, non? Vous êtes d'accord l'un et l'autre?
Bien sûr.
Alors
oui.
tant mieux.
Un grand Rimbaud, je dirais.
Un grand Rimbaud.
Et la mère, fermant le livre du devoir, s'en allait satisfaite et très fière. Sans voir dans les yeux bleus et sous le front plein d'éminence l'âme de son enfant livrée aux répugnances. Tout le jour il suait d'obéissance, très intelligent, pourtant d'éthique noire, quelques traits semblaient prouver en lui d'âcres hypocrisies. Dans l'ombre des couloirs aux tentures moisies, en passant il tirait la langue, les deux poings à laine, et dans ses yeux fermés voyait des points. Une porte s'ouvrait sur le soir à la lampe. On le voyait là-haut, qui râlait sur la rampe sous un golfe de jour. Pendant du toit, l'été surtout vaincu, stupide, il était entêté à se renfermer dans la fraîcheur des latrines. Il pensait là tranquille et livrant ses narines. Quand on lavait des odeurs du jour, le jardinet derrière la maison, en hiver s'illuminait, gisant au pied d'un mur enterré dans la Marne, et pour des visions écrasant son œil d'arne, il écoutait grouiller les galeux espaliers. Ses enfants seuls étaient ses familiers, qui, chétif, front nu, œil déteignant sur la joue, cachant de maigres doigts jaunes et noirs debout, sous des habits puant la foire et tout vieillot, conversaient avec la douceur des idiots. Et si, l'ayant surpris à des pitiés immondes, sa mère s'effrayait, les tendresses profondes de l'enfant se jetaient sur cet étonnement, c'était bon, elle avait le bleu regard qui ment. À 7 ans, il faisait des romans sur la vie du grand désert, où lui la liberté ravie. Forêt, soleil, rive, savane, il cédait de journaux illustrés où rouge il regardait des Espagnols rire et des Italiennes. Quand venait l'œil brun folle en robe d'indienne, 8 ans, la fille des ouvriers d'à côté, la petite brutale, et qu'elle avait sauté dans un coin sur son dos en secouant ses tresses et qu'il était sous elle, il lui mordait les fesses, car elle ne portait jamais de pantalon, et par elle meurtrie des poings et des talons, remportait les saveurs de sa peau dans sa chambre. Il craignait les blafards dimanches de décembre, où, pommadé sur un guéridon d'acajou, il lisait une Bible à la tranche vert chou. Des rêves l'oppressaient chaque nuit dans l'alcôve. Il n'aimait pas Dieu, mais les hommes qu'au soir fauve, noir en blouse, il voyait rentrer dans le faubourg, où les crieurs, en 3 roulements de tambour, font autour des édits rire et gronder les foules. Il rêvait la prairie amoureuse, où des houles lumineuses, parfums saints, pubescence d'or, font leur remuement calme et prennent leur essor. Et comme il savourait surtout les sombres choses, quand dans la chambre nue, aux persiennes closes, au thé bleu, âcrement prise d'humidité, il lisait son roman sans cesse médité. Plein de lourds ciels au creux et de forêts noyées, de fleurs de chair au bois sidéral déployé, vertige, écroulement, déroutes et pitiés, tandis que se faisait la rumeur du quartier, en bas seul et couché sur des pièces de toile écrue. Et pressentant violemment,
Léo Ferré, Arthur Rimbaud, les poètes de 7 ans. Nuit spéciale, Léo Ferré, à l'occasion du centenaire de sa naissance.